sur la première, c'est Vertigo jusqu'à 18h.
Bonjour Dominique de Risbourg.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour cette émission. On est ensemble pour ce qui nous concerne jusqu'à 17h30. Il y aura bien évidemment le journal à 17h. Dominique de Risbourg, photographe, vous publiez donc ce livre. Et il y a à côté cette exposition à la Ferrari Art Gallery à Vevey. Ce livre s'appelle « Tous égaux ». C'est une centaine de portraits de personnalités. Portraits assez particuliers, il faut bien le dire, car peu ou prou, ces personnalités-là prennent la même pose, sont cadrées quasiment de la même façon, avec quelques petites subtilités photographiques que vous nous expliquerez tout à l'heure. C'est difficile de résumer votre parcours. Vous êtes photographe, voilà. Alors vous faites plein de choses, comme tous les photographes. Vous faites de la mode, de l'art, des expositions, des livres. Vous travaillez pour la presse. Vous avez fait notamment une quinzaine d'années pour le magazine Femina. Exactement. C'est vous qui signez les photos de mode de ce magazine. Et puis, comme beaucoup de gens dans ce pays, eh bien vous sortez de l'école de photo de Vevey.
Eh oui.
Hein, voilà.
Eh oui.
C'est en gros une sorte de parcours que l'on peut résumer comme ceci. Ce qui nous intéresse, c'est ce livre-là, Tous égaux. On peut en voir des images par ailleurs sur votre site internet, si jamais cela vous titille pendant que vous nous écoutez. Je disais donc que c'est un livre étonnant parce que vous nous proposez des portraits de personnalités qui ont décidé de se mettre à nu. Alors à nu, entendons-nous, les épaules sont dénudées, c'est en tout cas ce que l'on voit sur les photographies, et ce sont des portraits pris de face, de la façon la plus simple, la plus brute, la plus naturelle possible. Il n'y a pas d'artifice, pas de maquillage, c'est le regard.
Exactement. J'ai voulu aller un petit peu à l'envers de ce que j'ai fait pendant très très longtemps. Et là, je voulais que les gens, plutôt que de prendre des gens en photo, je voulais que ce soit eux qui m'offrent leur regard. Donc l'idée, c'était un peu de faire un genre de photomaton. Donc de mettre les gens dans une situation assis sur la même valise, pour être à la même hauteur, sur le même fond, qui attire pas le regard, avec une lumière qui est très très simple, très basique, pour pas embellir. Et puis de demander aux gens de regarder la caméra, l'objectif, comme si un peu ils regardaient un miroir, comme s'ils étaient seuls devant un médecin, ou je dirais même comme si ils étaient dans un appareil de radio, donc seuls, livrés à eux-mêmes, et je les laissais donner le regard qu'ils avaient envie de donner d'eux-mêmes, sans les guider. Je les guidais juste pour, si j'avais l'impression que j'avais toujours les mêmes photos, pour juste les rendre attentifs au fait de certains détails, mais c'était eux qui donnaient leur regard.
Ce qui par ailleurs a surpris pas mal de ces personnes photographiées, qui pour beaucoup ont d'ailleurs l'habitude d'être photographiées, l'habitude d'être guidées dans une séance de photo, plus comme ceci, plus comme cela, non regardez-moi, ne me regardez pas. Et là, parfois certains étaient un peu désemparés.
C'est vrai que certaines personnes habituées à être photographiées, à maîtriser leur image, là se retrouvaient vraiment comme s'ils étaient le matin devant leur miroir. Donc je leur disais rien, je leur expliquais. Soit les gens savaient exactement ce qu'ils avaient envie de montrer comme regard par rapport à la joie, à la maladie, par rapport à l'espoir, parce que le but de cette exposition, c'était de reverser 50% de tout ce qui va être vendu pour Fondaction, donc une fondation qui fait la recherche sur le cancer, dont le professeur Lévrel est le président. Et l'idée, c'était de pour moi, la recherche, c'est pas automatiquement la tristesse, ça veut dire que c'est de l'espoir.
C'est de l'espoir, bien sûr. Oui.
Grâce à la recherche, grâce à l'argent qu'on peut récolter, on fait travailler des chercheurs, et puis ces chercheurs trouvent des solutions pour aider notre famille, pour aider nos enfants, pour nous aider peut-être nous-mêmes un jour.
La première personne photographiée même, c'est Gérard Rabé, l'ancien chef du Pont de Bran, qui, lui, a survécu à un cancer. C'était important, j'imagine, de commencer la série avec lui, ou c'était un hasard ?
Alors c'était important, mais c'est un peu, je disais que c'est une connaissance, c'est un ami que je connais depuis très très longtemps, et donc évidemment je savais qu'il avait été malade, et puis je savais surtout qu'il œuvrait beaucoup pour Fondaction. Donc vu que je voulais faire ce projet pour cette fondation, ça me paraissait évident de lui demander à lui. En plus j'avais besoin un peu d'un genre de cobaye, indolore cette fois-ci. J'avais besoin de quelqu'un qui puisse m'aider à faire des essais de lumière pour voir un peu quelle lumière je pourrais utiliser sur les personnes. Il fallait aussi que je règle le problème des empreintes, parce que je voulais aussi prendre les empreintes des personnalités pour montrer un peu symboliquement la trace qu'on laisse de notre passage. Donc il m'a vraiment aidé, il m'a donné plein de conseils, et puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis après, effectivement, ce genre de projet, on appelle des gens pour pouvoir avoir des nouvelles personnes. Donc c'est clair que le professeur Lévrat a utilisé son carnet d'adresse absolument important pour pouvoir demander à des personnalités d'accepter ou de refuser. Et Gérard Rabahi m'a aussi aidé par rapport à certains cuisiniers.
Il y a beaucoup de cuisiniers dans ce livre.
Il y a beaucoup de cuisiniers parce que c'est un peu mon univers de photos actuellement, première chose. Deuxième chose, ce projet, il avait un intérêt vu qu'on photographie les gens toujours épaules dégagées. Je voulais absolument arriver à enlever la fonction de la personne par son habit. Quand on voit un cuisinier, il a toujours un habit de cuisinier. Quand on voit un chef d'entreprise, il a une chemise et une cravate. Quand on voit un professeur de médecine, il a toujours une chemise, une blouse blanche. Là, quand on enlève la partie haute de l'habit, on est un peu déstabilisé. On reconnaît certaines personnalités, on a la peine à les reconnaître parce qu'on est habitué à voir certaines personnes avec une chemise à carreaux. Et puis là, on les retrouve complètement d'une dessert, juste les épaules dégagées. Et c'est un peu déstabilisant.
Vous avez réussi l'exploit, en tout cas, de faire poser Jean-Claude Bivert sans qu'il y ait la moindre marque, le moindre logo de l'entreprise horlogère qu'il représente, sans même qu'on voit une montre quelque part. Alors ça, c'est vraiment l'exploit.
Ben, je sais pas si c'est un exploit, mais je pense que Jean-Claude Bivert, la relation que j'ai eue avec lui, c'est quelqu'un d'une générosité absolument incroyable. Ouais. J'ai eu son mail, je lui ai envoyé un mail avec la description du projet, alors que le projet était au début, c'est-à-dire qu'il y avait genre 3 personnes qui avaient été photographiées, et puis pas des gens très connus. Et il a répondu par retour de mail en disant c'est ok, comment on fait? Alors je lui ai dit, ben voilà, ça se passe comme ça. Il m'a dit ok, rendez-vous tel jour, telle heure. Il a retardé un rendez-vous pour une raison familiale. Le deuxième rendez-vous était le bon. Je suis arrivé chez lui. Il était juste un peu surpris parce qu'il s'attendait. Je pense qu'il avait vu le projet, mais peut-être que sur un téléphone portable, on se rend peut-être moins compte. Et il était juste un peu surpris que je lui demande d'enlever sa chemise. Puis il m'a dit, ah bon, ok, pas de problème. Après, je lui ai dit, ben voilà, il faut enlever les chaussures, les chaussettes. Il m'a dit, ah bon, c'est quoi? Puis je lui ai montré vraiment le projet. Il m'a dit, bon, ok, c'est bon. Et puis ça s'est passé d'une manière très, très simple. Il y a d'autres personnes connues chez qui je suis arrivé chez ces personnes. Et puis quand je leur ai demandé d'enlever la chemise, qu'on refusait.
Ah,
ils n'avaient peut-être pas bien lu ou bien je ne voulais pas montrer leur épaule peut-être.
On ne dira pas de nom ici. On ne dira pas de nom. Beaucoup de personnes ont refusé de participer à votre projet, Dominique de Risbourg.
Écoutez, j'en ai photographié à peu près une centaine et je dirais que j'ai demandé à une centaine d'autres personnes. Donc à peu près une centaine de personnes qui ont refusé. Donc il y a des gens qui ont refusé pour des raisons tout à fait respectable et puis pour des raisons logiques. Et puis, je dirais qu'il y a une partie de personnes qui répondent jamais. Donc, on essaie de les relancer par des mails, on essaie d'avoir leur téléphone portable, on essaie par l'intermédiaire d'amis qui vont les brancher. Et puis, il y a des gens qui répondent pas. Donc, on n'a pas de nouvelles. On ne sait pas s'ils avaient envie, s'ils voulaient pas, ou on ne sait pas.
Est-ce que ce projet-là, finalement, Tous Égaux, donc je le rappelle, qui est destiné à sensibiliser sur la recherche contre le cancer, est-ce que ce projet-là, finalement, c'est pas si facile que ça à mener? C'est-à-dire que lorsqu'on s'adresse à des personnalités pour qu'elles soient photographiées dans un projet de ce type-là, Dominique de Risbourg, on imagine bien qu'évidemment, il y a peut-être un enthousiasme en se disant « bien sûr que je veux de la recherche », puis il y a peut-être aussi un frein, une question de pudeur, pourquoi moi, pourquoi est-ce que je me mettrai en avant pour ce type de projet?
Alors, c'est vrai que c'est, je pense, plus facile de travailler sur un projet comme ça pour aborder certaines personnes que si on travaille sur un projet qui n'a pas cette sensibilité ou cette
dimension-là.
Ouais. Alors, les personnes connues qui ont accepté, en général, les gens, ils ont été très touchants parce que beaucoup se sont un peu livrés. On se retrouve devant, d'un côté, vu que je photographiais ces gens et que je les laissais m'offrir ce qu'ils avaient envie de m'offrir, beaucoup de personnes m'ont raconté des histoires. Donc, il y a des gens qui ont vécu la maladie, qui ont dû vaincre la maladie, qui ont dû lutter contre cette maladie. Il y a des personnes qui ont eu des gens très proches d'eux. Et c'est vrai que ça a été très, très émouvant. De discuter et ces gens, les gens qui ont accepté, parce que dans ce projet, les gens qui ont accepté, c'est juste uniquement des gens qui sont généreux, ces gens qui ont accepté, après ils se sont pliés de bonne grâce au projet, qui est un peu bizarre.
Certains ont même ouvert leur carnet d'adresse.
Alors c'est clair que je dirais qu'il y a des personnalités qui ont ouvert leur carnet d'adresse de manière absolument incroyable. Je pense que je peux citer des noms.
Mais faites.
Voilà, donc c'est clair que le professeur Lévra, il avait un carnet d'adresse par rapport à sa fondation, il a beaucoup aidé. Ouais. Des gens comme Patrick Delarive aussi, il était surpris, intéressé. Et il est venu faire la photo et après il m'a dit mais je peux faire comment pour vous aider? Alors je dis est-ce que je pense que vous connaissez du monde ou comme et puis donc il a sorti son téléphone portable et puis il m'a listé un nombre de personnalités assez importantes et puis toutes ces personnes après il les a contactées lui directement et les gens ont accepté.
Comme quoi
il faut demander.
Et voilà, tout simplement, on ne risque rien à demander.
Exactement.
Dominique de Risbourg, on ne va pas s'étaler sur la partie technique de votre travail, mais malgré tout, expliquez-nous quelque chose à propos de ces photographies. Il y a 3 photos en une, c'est ça ?
Exactement. J'avais envie de retrouver un peu ce regard des gens un peu absents, des photos du début du siècle, à l'époque où les films étaient très peu sensibles, donc il fallait un temps de pause très très long. Donc les gens étaient un peu fixés dans un studio photo, avec pratiquement une genre de petite tige derrière la tête, pour que la tête ne bouge pas, et le temps de pause pouvait durer jusqu'à 20 secondes. Donc vous imaginez, vous regardiez la caméra de manière très très fixe. Et je trouvais que dans la photo, il y a un rapport avec le temps. On photographie au millième de seconde, au quart de seconde. Et j'avais envie de retrouver un peu ce regard un peu étrange. Donc je pouvais pas faire poser les gens pendant 20 secondes. Donc j'ai trouvé une autre solution en faisant trois images au flash. Donc j'ai trois images à peu près à un intervalle d'une seconde. Donc les gens, je leur demandais de ne pas bouger et de penser à la même chose. Et ces trois images après sont simplement additionnées les unes sur les autres. Et ça donne un effet un peu où il y a un petit flou à certains endroits. Mmh. Il y a la netteté à d'autres endroits. Et puis, peut-être naïvement, j'imagine que le temps étant plus long, on a une concentration d'un regard, une concentration, on fait durer le temps.
En effet, lorsqu'on regarde ces images, on est assez impressionné par leur dureté d'une certaine manière, ou plutôt peut-être même par leur précision en fait. Voilà, vous parlez de flou, de netteté à un endroit ou à un autre, mais il y a quelque chose de très fort, brut, comme du matériau brut qui se dégage de ces portraits.
C'était un peu le but du jeu, parce que souvent, quand on fait des photos de mode ou des photos publicitaires, on maquille les gens. Donc, on a déjà un genre de filtre créé par le maquillage. Là, les gens n'étaient jamais maquillés. Donc, les hommes, évidemment, pas maquillés. Les femmes, c'était un des gros grands défis. C'était d'arriver à accepter à ce que des femmes qui maîtrisent une image à la télé, qui maîtrisent leur image dans les médias, acceptent qu'on les photographie sans aucun maquillage. Alors, je dirais, la seule petite nuance que j'ai acceptée, c'était un petit peu de mascara sur les cils, parce qu'on me faisait croire que c'était du mascara permanent. Maintenant, bon, je ne suis pas dupe, mais on va dire que j'ai accepté cette règle. Mais les gens ont accepté réellement de se faire photographier sans maquillage. Donc, sans maquillage, avec une lumière qui n'était pas faite pour embellir les gens, on a une certaine dureté. On a un peu cette lumière qu'on peut avoir le matin dans notre salle de bain. Quand on se regarde, on se demande, mais la tête qu'on a.
Et pourquoi je suis tout vert ?
Et pourquoi j'ai tout vert ?
Alors d'où l'intérêt du noir et blanc.
D'où l'intérêt du noir et blanc. C'est vrai que le noir et blanc, ça permettait un peu d'unifier les tons de peau, éviter les petites rougeurs, les choses comme ça. Le but, c'était pas de faire des photos, de pas d'embellir les images, pas de faire des images esthétisantes, mais le but, c'était pas non plus de d'enlaidir les gens.
De faire peur aux enfants lorsqu'ils ouvriront le livre.
Oui, ou au peur aux gens eux-mêmes.
Dominique de Risbourg est notre invité. Tous égaux est un projet photographique, vous l'aurez compris, qui se décline dans un livre, mais également dans une exposition à la Ferrari Art Gallery. Ça commence ce vendredi et ça se trouve à Vevey. Voici Vanessa Paradis. Pas besoin de permis. Pas besoin de permis. Pourquoi ? Je ne sais pas. Écoutons-la. Elle dit tout dans cette chanson. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez.
Si t'as la moyenne en rien, tu pourras faire Condé. Ou pourquoi pas musicien ? Ma maman me disait, si t'as la moyenne en rien,
les points, tu vas te régaler. Si t'as la moyenne en rien, tu peux te faire lire. Même si ça ne sert à rien, c'est mieux que le vol à la tire. Si t'es économe, que tu fais pas de bruit. Si t'es dans la norme, que tu restes assis. Si t'as des carences, pense à ton maudit. En toi l'évidence, tu peux réussir ta vie. Si t'as la moyenne en rien, tu peux faire des étincelles. Si t'as la moyenne en rien, ta limite sera le ciel. Dis-le-toi, dis-toi le bien. La vie, la vie, la vie, c'est comme un tractopelle. Pas besoin de permis, ah, pas besoin de permis.
Vanessa Paradis, une chanson coécrite avec Benjamin Biolay, pas besoin de permis. À 16h48 dans Vertigo, notre invité est le photographe Dominique Derisbourg pour ce projet intitulé Tous égaux. C'est à voir à la Ferrari Art Gallery à Vevey à partir de vendredi. Et c'est également un livre. Il y aura également une vente aux enchères dont 50% des profits iront à fonds d'action pour lutter contre le cancer. On va revenir à vos images, Dominique Derisbourg. Images ou photographies d'ailleurs? Je crois savoir qu'il y a débat chez les photographes.
Alors franchement, ça me... Image et photographie, ça m'est égal.
Peu vous chaud. Très bien. On en revient encore à ces images-là qui sont très brutes. On le rappelle, les personnes que vous avez photographiées, qui sont toutes des personnalités, posent les épaules dénudées, le regard droit, planté devant l'objectif. Alors certains ont des attitudes, on va dire, la tête plus ou moins rentrée dans les épaules, ou les épaules qui remontent plus ou moins autour du cou, la tête penchée, on se penche un peu plus vers l'objectif, on se recule, ou alors on se tient très très droit. Mais il y a quelque chose de probablement peut-être même de plus intime que d'être totalement nu devant un appareil photo lorsqu'on est comme ça, le regard planté dans l'objectif.
Oui, parce que déjà, on ne montre rien. Donc, on peut imaginer plein de choses, première chose. Là. Et puis, le fait d'avoir ce regard qui est très, très présent, qui est presque inquisiteur, certains regards sont presque dérangeants. Il y a, de mémoire, comme ça, il y a le portrait de Philippe Serres, oui. qui est d'une violence absolument, voilà, absolument incroyable. Chacun a décidé de montrer ce qu'il avait envie de montrer. Donc il y a des gens qui étaient gays, il y a des gens les gens me disaient mais on peut sourire. Je dis ben si vous avez envie de sourire, il y a aucun problème, vous voulez rire, vous riez, si vous voulez être triste, vous êtes triste. Chacun était libre de montrer le regard qu'il avait envie de m'offrir, d'offrir à fond d'action le regard qu'ils avaient envie d'offrir.
Et puis, ben, tout à coup, on découvre certaines personnes sans leurs lunettes d'ailleurs, à part une. Mais on découvre certaines personnes de face avec leur regard, c'est-à-dire sans les lunettes, sans la pose, sans le maquillage, sans rien. Là aussi, c'est aussi, j'imagine, pour eux, parfois peut-être dérangeant.
Alors, le choix des lunettes ou pas des lunettes, c'était libre à chacun. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui, sans lunettes, on a un regard... je porte des lunettes, donc je parle en connaissance de cause. On peut avoir un regard très très bizarre parce qu'on voit rien du tout. Et puis l'idée, c'était un peu de mettre ces personnalités un peu comme s'ils étaient devant un médecin ou s'ils étaient, je dirais, plus l'image d'un appareil de radio, un scanner ou un IRM. Je pense que tout le monde, un jour ou l'autre, passait dans ce genre de petite machine ou de grosse machine. Et puis on se retrouve comme ça, à regarder au-dessus de sa tête, il y a un genre de miroir, et puis on se pose plein de questions, on se demande qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer dans le quart d'heure qui va suivre? Qu'est-ce qu'on peut vous annoncer comme nouvelle? Alors, la majorité du temps, on vous annonce une bonne nouvelle. On vous dit, mais c'est pas grave, vous pouvez rentrer chez vous, soyez rassurés. Et puis, de temps en temps, on vous annonce une mauvaise nouvelle. Et ces gens, ils ont un peu ce regard comme ça. L'idée, c'était un peu d'avoir ce regard un peu interrogateur. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, ça peut être aussi la joie parce que voilà, on est chacun. Je pense qu'on est tout le monde. Certaines personnes voient le verre à moitié vide, d'autres le verre à moitié plein. Donc, quand on est dans une machine comme ça, on peut être positif et puis on peut être négatif.
Mais malgré le sourire, il reste les yeux, le regard et parfois, sourire ou pas d'ailleurs, ce qui transparaît réellement de la personnalité du sujet photographié, eh bien, ça passe par les yeux, par le regard.
Alors oui, mais dans ce projet, il y a beaucoup de personnalités, vous parlez de personnalités, il y a aussi des personnes pas connues du tout, parce que l'idée c'était aussi de montrer que devant la maladie, on peut être connu, pas connu, riche, pas riche, pauvre, ainsi de suite. On est tous égaux, quand on vous annonce quelque chose, une bonne comme une mauvaise nouvelle, on est tous égaux. Donc il y avait vraiment des gens connus comme des gens pas connus. Évidemment, ce genre de projet, il a fonctionné plus rapidement avec les gens connus amenant les gens connus. Mais, voilà, je sais plus votre question, excusez-moi.
Malgré tout, malgré la pause, malgré les sourires, malgré les artifices du visage, reste le regard qui, lui, ne ment pas.
Le regard, il ment pas parce que les gens étaient vraiment devant cet objectif qui ressemble un peu à un miroir. Et alors, ils essayent de chercher un petit peu parce que, évidemment, l'objectif, c'est brillant. Donc, les gens, vu que moi, j'étais juste à côté de l'appareil photo et que je les regardais pas, que je les laissais faire, que moi, j'appuyais grosso modo quand je trouvais que c'était intéressant, qu'ils étaient prêts. Et les gens essayent de se regarder un petit peu. C'est pour ça un peu qu'il y a des gens qui ont la tête dans les épaules, des gens qui se grandissent. Il y a aussi, bon, voilà, les gens s'assoient et toutes les personnes se sont assises sur la même valise, donc une petite valise en aluminium, la même hauteur. Tous les cadrages étaient faits de la même manière. Et dans le cadre photographique, un peu comme un cadre de cinéma, un peu comme un plan séquence, les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient dedans. Donc mettre les mains, pas les mains, se mettre de côté, se mettre de profil, sourire, pas sourire, mettre la tête, se grandir. Chacun était libre de faire ce qu'il voulait. Moi, je les rendais simplement attentifs au fait que si on faisait, par exemple, 4 photos toujours les mêmes, je leur disais simplement, voilà, je pense que peut-être qu'on pourrait peut-être faire autre chose, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez.
Ces personnalités-là, donc on rappelle que vous les avez contactées, utilisé les réseaux, et certaines ont accepté, d'autres pas. On va dire que c'est du 50-50. Il y a une centaine de personnalités photographiées, il y en a une centaine qui, pour des raisons diverses et variées, n'ont pas pu passer devant votre objectif. Mais quelle était votre motivation profonde à vous, Dominique de Risbourg, pour vous lancer dans ce projet ?
Alors, je pense que c'est arrivé à un moment, la photographie, elle a beaucoup évolué, le métier a beaucoup changé, et peut-être que je suis arrivé à un moment où j'avais peut-être un peu plus de temps aussi devant moi, et puis j'avais envie, j'ai toujours fait des expositions, des travaux de recherche, mais c'était toujours un peu un travail sur la couleur, la lumière, un côté un peu photographique, un peu de la peinture. J'ai peigné des fonds en couleur, j'ai retravaillé les images, j'ai essayé d'amener un côté très esthétisant, peut-être un défaut dû à mon métier de départ. Et là, j'avais réellement envie de me mettre un peu en danger, d'aller à l'envers, d'aller à la simplicité, de faire le plus simple possible, de faire le plus simple possible.
Ouais. Ces images-là ont-elles été beaucoup retravaillées par la suite ?
Il n'y a aucune retouche. À part le fait d'additionner les 3 images qui se fait avec un programme, et ça se fait de manière un peu aléatoire. Mais par contre, il n'y a eu aucune retouche. La seule retouche que je me suis permis de faire, c'était évidemment quand une personne arrivait avec un bouton qui n'était pas habituel, je retirais le bouton. Ou bien quelqu'un retirait la paire de lunettes, il y avait la marque de lunettes sur le nez, je retirais ça. Mais il n'y a aucune retouche. Donc les cernes sont là, les rides sont là, il n'y a aucune retouche.
Il n'y a que 2 photographes dans votre livre. Il y a Édouard Curchaud et Chloé Bonnard.
Exactement, oui. Ouais. Alors, Édouard Curchaud.
Est-ce que c'est parce que les photographes que vous avez contactés refusent d'être photographiés? Parce qu'on sait qu'ils n'aiment pas ça. Comme vous, d'ailleurs. Vous avez fait un autoportrait les yeux fermés à la fin de votre livre. Ou est-ce qu'au fond, vous n'avez pas voulu photographier des photographes?
Alors, c'est pas un autoportrait. Pour la petite histoire, c'est ma femme qui m'a photographié. Okay. Comme ça, elle le saura. Et puis, d'autres photographes, c'est vrai que j'ai hésité à demander à plusieurs photographes. Après, c'est vrai que c'est un métier un peu d'individualiste. Et puis, si on commence à demander à l'un, pourquoi pas à l'autre? Alors, les 2 photographes qui sont dans le livre, le premier, Édouard Curchaud, c'est tout simplement parce que c'est un ami avec qui je travaille souvent dans le même studio. Et puis, la deuxième personne, c'est tout simplement parce que c'était mon ancienne assistante. Et qui est partie à Paris. Et puis, qui est devenue, une photographe de grande renommée à Paris, qui commence à faire plein de choses. Et je trouvais amusant de lui demander de revenir et elle a accepté.
Fait partie du collectif Les Nanas de Paname.
Exactement, ça, hein, elle a monté tout un business. Alors moi, j'ai pas tout bien compris parce que je suis pas très au fait d'internet, mais elle a monté ça avec une associée et c'est quelque chose qui marche, mais de tonnerre de Dieu à Paris.
Ouais, absolument.
Vertigo de 16h30 à 18h. Vertigo sur la première.
J'ai une question à vous poser, Dominique de Risbourg. Qui a dit au fond faire des photos, ça sert pas vraiment à grand chose?
J'ai peut-être dit ça moi-même, oui. Je crois. Mais parce que c'est vrai que je pense que...
Replaçons le contexte.
Voilà, mais disons qu'il y a des choses importantes dans la vie. Je pense qu'effectivement, je vais être un peu quelqu'un qui ramasse les poubelles dans les communes est sûrement plus utile qu'un photographe, parce que s'il les ramasse pas pendant une semaine, ça crée des gros problèmes. Un photographe qui ne fait pas de photos, bah, ça ne fait pas de photos. Voilà, ça prolonge un peu la vie des arbres dans les forêts. Bon, maintenant avec Internet, peut-être pas, mais... Je pense qu'on n'a pas un métier comparé à un médecin, comparé à quelqu'un qui ramasse les poubelles dans les rues. C'est pas valorisant ce que je veux dire par là, mais c'est plus utile qu'un photographe.
Bon, il y a quand même le photographe de presse qui informe. L'information, c'est quelque chose d'indispensable aujourd'hui. C'est le jeu de la démocratie également.
Alors ça, entièrement d'accord. C'est vrai que peut-être là, je suis un peu égoïste en pensant qu'à mon petit univers de photographe. C'est vrai que la presse, c'est important, effectivement. Autant pour moi.
Ouais. Vous êtes aussi assez étonnant parce que alors vous avez plusieurs passions. Vous aimez, bon, évidemment, votre travail, c'est la photographie, votre métier. Il y a également cette passion que vous avez pour la matière brute. Et là, on peut de nouveau faire référence à vos photos. Vous aimez poncer, peindre, refaire, reconstruire, démonter, refaire, rénover.
C'est vrai que souvent je fabriquais moi-même mes fonds en tissu, donc j'avais des grands fonds de décors de théâtre que je peignais avec des rouleaux, des éponges, des choses comme ça. Et puis bon, là, dans ce travail, le fond, il est tout simple, mais par contre, j'ai juste amené un petit côté un peu les empreintes que j'ai prises de toutes ces personnalités. On les a, donc elles sont prises dans des blocs de mousse qu'on utilise en général pour pouvoir faire des empreintes, des semelles orthopédiques. Oui. Voilà.
Et qui conservent l'empreinte du pied. Voilà. Et sans le problème du plâtre ou voilà, pas de grumeaux, c'est lisse.
Voilà, c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à prendre les empreintes de pied avec Gérard Abbé, je balançais un kilo de farine sur une grande feuille.
Naïf que vous étiez.
Oui, et puis les gens marchaient dedans et je photographiais l'empreinte. Alors c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que balader avec de la farine, c'était compliqué. Et c'est Gérard Abbé qui sortait de chez l'orthopédiste pour pouvoir faire ses semelles. Il m'a dit, mais écoute, j'ai vu ça ce matin, ça serait génial pour toi. Et puis voilà, là j'ai été mis en contact avec les frères Colère à Vevey qui sont orthopédistes pour faire les semelles et puis qui m'ont offert pendant toute la durée du projet ces formes. Et puis ces formes, j'utilise cette forme pour faire un moulage en plâtre. Et donc, évidemment, quand le moulage est fait, l'empreinte, elle est perdue. Et puis, ces empreintes en plâtre qui sont uniques, elles sont vendues avec un tirage qui fait à peu près un format de 90/90 aux enchères pendant l'exposition. Et donc, uniquement sur le site de la galerie, pour cette vente.
Exposition, donc, tous égaux, je le rappelle, c'est à la galerie Ferrari. Ferrari Art Gallery. Voilà, il faut lire en anglais.
Hein, oui, sur la rivière Vaudoise. Si on tape Ferrari, je pense, on y arrive facilement.
Oui, en passant pas mal de voitures rouges, j'imagine, tout en temps.
Peut-être rajouter art.
Oui, voilà, c'est ça, faut rajouter art. Encore que même là, vous savez,
c'est vrai.
On pourra avoir des surprises.
Alors, Vevey.
Oui, voilà, Vevey. Voilà. Ferrari, Vevey. Une passion pour le vin également, vous avez eu une cuvée perso de Petite Arvine.
J'ai pas eu, j'ai toujours.
Vous avez toujours
le sixième millésime est en barrique, donc on va attendre un petit peu. Plus un autre millésime avec un vin rouge, avec un ami en Valais, qui me fait le Alexandre Deletra, qui me fait une cuvée un peu spéciale pour moi, ma manière, avec mon goût. Avec
votre goût à vous. Ce lien entre la photographie, le vin, les arts culinaires, voilà, ça fait partie de votre métier aussi. C'est comme ça que vous êtes arrivé dans l'art culinaire, pourrait-on dire, ou au contraire, c'est quelque chose que vous aviez en vous déjà avant?
Disons que de tout temps, j'ai aimé manger, j'aime le vin, les bons vins. Et puis c'est vrai que un jour, je pense que tout le monde rêve d'avoir son propre vin. Et j'ai eu la chance avec un ami œnologue qui m'a proposé qu'on pouvait faire notre vin soi-même. On achète du raisin, un bon raisin, on le ramène. Cet ami Daniel Dufaux, il a une cave, un pressoir, on presse le raisin, on le met dans une barrique.
Vous avez participé à toutes ces étapes-là?
Oui, bien sûr. Bah, c'est ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir le raisin brut arriver, de le presser et de mettre le jus de raisin qui a juste un goût de raisin, qui a une couleur un peu bizarroïde dans une barrique en chêne. Et puis, une année après, le sortir clair, et le mettre dans une bouteille. Et puis d'avoir quelque chose qui est tout à fait bien, quoi. Même carrément très bien. Même.
Ça rappelle le développement de la photo, en fait.
Il y a un côté un peu chimique, ouais, effectivement.
Ouais, ouais. Où on a un produit et on va voir ce que ça va rendre dans le laboratoire, d'une certaine façon.
Oui, c'est un peu la même chose. Bon, là, disons que lui maîtrise parfaitement les choses. Donc, la photo... Moi, j'ai jamais aimé le travail de laboratoire. C'était ce côté être dans le noir pendant une journée entière, le côté un peu répétitif. Du moins, pas répétitif, justement, parce que faire un tirage, on n'arrive jamais au même. Ça me rassurait pas vraiment. Moi, je trouve que le numérique, ça a amené quelque chose de. On peut être très créatif, mais on a un côté plus reproductible où on peut corriger les erreurs sans revenir en arrière.
Vous avez des obsessions esthétiques?
La simplicité. Je pense que j'ai juste envie, alors là, dans ce cas-là, j'ai peut-être pas rendu les gens beaux, mais c'est les gens sont beaux par eux-mêmes.
Oui.
Mais c'est vrai que j'essaye toujours que la lumière soit la plus belle possible, qu'il y ait le moins de défauts possible. Ouais, je suis un petit peu, je vais avoir des tocs sur je retouche sur les images de mode, mais on retouche beaucoup de choses, quoi.
Vous pratiquez toujours la photographie de mode, Dominique de Risbourg?
Franchement, plus.
Ouais.
Non. Je dirais que, je pense que j'ai fait des photos de mode pendant très longtemps, mais j'ai jamais été un photographe de mode. Alors, il a fallu un certain temps pour que je comprenne et qu'on me fasse comprendre que c'était peut-être pas mon univers et qu'on m'éloigne de cet univers. Donc, je reste.
Non, mais attendez, qu'on vous fasse comprendre. Lorsqu'on fait 15 ans de la photographie de mode, c'est plutôt qu'on est bon dans le domaine, non? Si on a toujours des commandes et si on fait toujours appel à vous.
Oui, mais alors la photo de mode, ça a le mot mode. Donc un jour on est à la mode, un jour on l'est moins.
Ouais.
Et puis comme partout, il y a des changements, il y a des gens qui arrivent. Et quand les nouvelles personnes arrivent, on considère que tout ce qu'il y avait avant, c'était pas bien. Donc on vire tout le monde et puis on recommence. Donc ça fait partie de la règle du jeu. Hein, donc ouais. Moi, je peux rien dire dans le sens où je pense qu'on fait tous la même chose. Moi, j'ai fait la même chose avec certains de mes collaborateurs parce qu'à un moment, on arrive au bout d'une histoire et puis ça doit s'arrêter. Donc,
et vous avez pris dans ce cycle-là la place de quelqu'un peut-être aussi et quelqu'un prendra votre place.
Bah, je pense, oui, il y a un cycle. Je pense que comme la vie, c'est un grand puzzle. Hein, donc à un moment, on est là et puis on enlève et puis petit à petit, ça se construit.
Mais il y a toujours la photographie dans tout votre parcours alors que vous aviez aussi une passion pour la peinture.
Je suis passionné de peinture, mais je suis incapable de peindre. Alors la photo, ça avait l'avantage de pouvoir faire des images plus que des photos, et sans avoir un pinceau ou un crayon. Donc ça permettait. Donc j'utilisais la photo comme un genre de croquis. Et puis après, je les retravaillais pour arriver à les amener à ce que moi j'avais dans la tête, avec les couleurs, en rajoutant des traits. C'était peut-être là la différence entre une photo et puis une image. Une photo, c'est peut-être la traduction de la réalité. Et puis l'image, c'est peut-être quand on amène quelque chose de plus dans une photo. C'est peut-être ça la différence.
Ouais. Est-ce que vous avez un iPod ?
Alors j'ai un iPod, oui, j'en ai un.
Ouais. Un vieux ?
Alors j'ai un vieux, oui.
Ah, alors, conservez-le.
Je vais le garder, collector.
On va inaugurer avec Mathieu Chevrier une forme de nouvelle rubrique, mort ou pas mort.
Vertigo, pop culture.
Bonjour Mathieu Chevrier.
Bonjour.
Une nouvelle rubrique, mort ou pas mort.
Eh bien, l'iPod, Pierre-Philippe, est-il mort ou n'est-il pas mort?
Il n'est pas mort.
Eh bien si. Il
est
mort.
Mais comment ça ?
Alors non, figurez-vous qu'il reste bien l'iPod Touch, cette pâle copie d'iPhone, ou l'iPod Nano, bientôt détrôné par une montre, mais l'iPod, celui avec qui on emmène 65 jours de musique, eh bien l'iPod... Il est mort, oui.
Celui que je connais, quoi.
Oui, celui que vous connaissez, RIP, l'iPod classique, comme on l'appelle, ou comme Apple l'appelait, le disque dur enrobé d'aluminium laminé ou de plastique blanc avec sa roulette et son petit écran. Celui qui a, à l'époque, enterré le Walkman, celui qui a redoré, que dis-je, platinumisé, diamantisé le blason d'Apple. L'iPod classique est mort.
Bon, alors, y a-t-il de quoi en faire un plat, pour autant ?
Bien oui, puisque sans iPod, pas d'iTunes, on achèterait encore des disques dans des magasins. T'imagines ?
Trop dingue.
Non, disque publié par des immenses manias de la musique. Sans iPod, on n'écouterait pas toute sa musique n'importe où, n'importe quand. L'iPod, il a changé la face de la musique. Il a changé comment on l'achète et comment on la consomme. Il a aussi donné naissance à l'iPhone et au podcast.
Ah bon ?
Le podcast, contraction de iPod et broadcast, diffusion. Ouais. Podcast que nos amis québécois appellent balado-diffusion.
Oui, ils disent comme ça aussi sur France Inter.
Oui, ça, c'est vrai. Oui. C'est bon, ça a presque le mérite d'être clair. Emporter des morceaux de radio ou d'émissions avec soi. Le podcast fête cette année ses 10 ans. 10 ans que la radio peut se la jouer à la carte ou en téléchargement. 10 ans que la radio se trimballe et se promène partout.
Oui, mais maintenant, Mathieu, c'est l'image qui est reine. La télé est à la demande aussi.
10 ans plus tard. C'est juste. 10 ans plus tard, avec la naissance du net, avec le succès de l'iPod, avec le podcast, tous les spécialistes, surtout ceux qui travaillent l'image, tout le monde était d'accord pour dire la radio est morte, ou était morte. C'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, ces Nostradamus ont non seulement eu tort, mais aussi très tort, figurez-vous. Ça n'était que le début de la renaissance radio. Aujourd'hui, un nouvel âge d'or commence, âge d'or qu'on doit à ceux qui devaient tuer la radio, le net, l'iPod et le fameux podcast.
Alors, expliquez-nous, Mathieu, pourquoi sommes-nous dans un nouvel âge d'or de la radio ?
Eh bien, c'est grâce à l'iPod et au podcast. On peut prendre la radio partout, en petits morceaux avec soi. Grâce à l'internet mobile, on peut y accéder partout, l'écouter, la réécouter, la télécharger. Tout ça devait signifier la mort de la radio. On était censé ne plus l'écouter, vaguement la télécharger occasionnellement, mais surtout aller directement sur nos musiques préférées en faisant l'impasse sur la radio. Eh bien, pas du tout. La radio se porte très bien, contrairement à la presse ou la télé, que le net et l'accès à la demande ont profondément altéré. La radio va bien. Les gens aiment sa compagnie. Ils aiment apprendre en faisant autre chose. Oui, parce que contrairement à la lecture ou à la télé, on peut faire d'autres choses en écoutant la radio.
Comme c'est conduire, donc, quoi.
Par exemple, oui. C'est donc normal que le nouvel âge d'or de la radio passe par la case voiture. La voiture, c'est le temple de la radio, parce qu'on ne regarde pas la télé en voiture, du moins quand on conduit. On ne lit pas quand on conduit. Il y a des exceptions, mais quand même. Depuis toujours, la radio est la reine de la voiture, à une exception près que le CD avait volé une certaine place à la radio à l'époque.
Mais bon, le CD est mort. Donc
oui, voilà. Bah figurez-vous que la voiture, elle, qui est maintenant sur le point d'être connectée au réseau 4G via Internet mobile, ça signifie la mort du CD en voiture, ça c'est une évidence, mais c'est l'occasion rêvée pour la radio de s'écouter à la demande encore plus facilement sur tous ses trajets. partager, de reprendre une émission en cours, d'écouter les précédentes, de zapper à loisir pour trouver la musique qu'on préfère et découvrir. La voiture connectée ouvre des portes inattendues pour la radio, mais préparez-vous. Il y a de nouveaux Nostradamus qui vont venir nous dire que la voiture connectée signifie la mort de la radio, comme l'iPod, le podcast et Internet avant elle. Pourtant, la radio va bien, elle se laisse contrôler par son utilisateur, la radio va bien, elle croule sous les avantages, souplesse, mobilité, ubiquité, multitâche, la radio va bien. Et croyez-moi, avec la voiture connectée, la radio, elle ira encore mieux.
Merci Mathieu.
Vertigo. Sur la première.
Avec Dominique de Risbourg, notre invité photographe. Ce livre, Tous égaux, je le précise, dont nous avons parlé avec vous, Dominique de Risbourg, est disponible chez Payot. Genre, je le dis, c'est uniquement chez Payot parce que le réseau Payot vous a offert la distribution et la mise en place des livres, puisqu'on rappelle que c'est au profit de Fonds d'Action pour lutter contre le cancer. Également cette exposition à la Ferrari Art Gallery de Vevey. On a entendu Mathieu Chevrier là, nous parler de la fin de l'iPod, l'iPod classique, celui qui a remis Apple sur les listes, les bonnes listes et les bonnes feuilles de celles et ceux qui jouent en bourse. Est-ce qu'un jour on va assister à la disparition de l'appareil photo tel qu'on le connaît, c'est-à-dire cet objet un petit peu encombrant avec un objectif, dans la mesure où aujourd'hui on voit bien que nos téléphones font tout ou presque, hein, sauf le café?
Alors c'est déjà fait. Ouais. Juste pour une petite anecdote, quand j'ai commencé à faire des photos en numérique, j'avais un appareil photo qui valait 50 000 francs, ouais, qui faisait 6 millions de pixels. Maintenant, on a un téléphone portable qui en fait 8, et les images, elles sont pratiquement aussi bonnes. Ouais. Donc la réponse, elle est là.
Donc à terme, l'appareil photo va disparaître, vous pensez ?
Oui, je pense, franchement oui. Ça va rester, je pense, comme un peu la photo, les tirages noir et blanc, Barit. Il y a certains collectionneurs, certaines personnes qui vont garder un peu le souvenir du côté un peu traditionnel. Il y aura encore des appareils photo pour certaines choses très particulières, mais la majorité des gens, je pense, feront leurs photos avec un téléphone, avec peut-être une montre, avec, je pense, même dans les lunettes. On peut s'imaginer maintenant qu'avec d'ici peut-être quelques années, avec un objectif dans la branche de lunettes, on pourrait très bien s'imaginer en disant photo et puis que ça fasse la photo. Ouais, ça me paraît pas inconcevable.
Mais ça va être infernal. Il y a déjà un milliard de photos par jour qui sont prises, vous rendez compte?
C'est déjà comme ça maintenant. Maintenant, le problème, c'est que tout le monde est photographe. Et on fait appel à des photographes professionnels uniquement quand on cherche, quand l'amateur, entre parenthèses, vous, moi, avec mon petit téléphone, on ne sait pas faire. Donc à ce moment-là, on appelle le photographe pour faire certaines choses un peu compliquées. Mais c'est déjà maintenant, avant, pour pouvoir être photographe professionnel, il fallait diffuser ses images dans les banques d'images, il y avait tout un réseau, il n'y avait que pour les journaux, il fallait connaître beaucoup de gens pour vendre des images. Maintenant, n'importe qui fait une photo, la met sur le web, et puis si la photo a un intérêt rédactionnel, cette photo peut être achetée. On peut s'imaginer que vous êtes au bon endroit, au bon moment, vous faites une photo avec un téléphone portable, cette photo, elle a un sens d'information extraordinaire, cette photo peut être achetée et puis faire la couverture d'un magazine.
Alors, est-ce que le photographe aussi, son métier va changer? C'est-à-dire que puisque tout le monde est photographe et que tout le monde peut tout photographier ou presque, votre champ d'activité va-t-il se réduire petit à petit sur certains sujets ou certaines thématiques?
Mais c'est déjà fait. Franchement, c'est déjà fait. Je pense que le photographe, maintenant, on doit faire beaucoup plus de choses. On essaye de... avant, on faisait que la photo. Maintenant, avant, il y avait le photographe, il y avait les laboratoires, il y avait les gens qui faisaient les tirages, il y avait les gens qui faisaient la maquette dans les magazines, il y avait les gens qui faisaient la retouche. Maintenant, grosso modo, un photographe, il n'y a plus de film, donc le photographe fait des photos numériques, il retouche lui-même ses photos, il fait la maquette lui-même de son livre, il peut même les tirages, il peut les faire lui-même. Donc, un métier où il y a simplement 10 ans, où il y avait à peu près 10 intervenants du moment où on faisait la photo au moment où on pouvait avoir un objet imprimé à avoir dans les mains, maintenant il y a une seule personne qui le fait.
Alors quelle est la condition de la survie du photographe, employant ce mot fort, pour qu'il continue son métier?
Je pense d'amener une image que personne ne peut faire. Avoir un style peut-être différent, avoir une écriture photographique qui puisse intéresser certains médias, certains collectionneurs par exemple pour les galeries. Mais le métier, il a vraiment changé, ça c'est sûr.
Je vous posais cette question-là parce que lorsqu'on va sur votre site Dominique de Risbourg, on se rend compte que au fur et à mesure que l'on parcourt l'évolution de votre travail, on sent beaucoup de recherche au fond. Vous cherchez. Alors évidemment, il y a toutes vos photos professionnelles, photographes de mode, clairement identifiées, qui sont, on le comprend bien, faites pour être publiées dans les magazines, avec cette qualité d'impression indispensable. Et puis il y a toutes vos recherches formelles sur le paysage, sur le ressenti, ce que vous ressentez devant un paysage, de quelle façon on peut le traduire en images, et donc des styles assez différents, assez éclatés finalement.
Mais ça fait partie, c'est peut-être un défaut ou une qualité. C'est que sans être hyperactif, je peux pas m'arrêter de faire des photos, donc je suis toujours en train de faire des recherches. C'est vrai que j'ai plutôt cet état d'esprit de vouloir essayer de comprendre comment ça marche. Donc quand gamin, j'avais une voiture, il fallait fallait que je la démonte pour voir comment ça marchait, sans savoir la remonter évidemment. Et puis j'ai toujours envie d'essayer, donc j'ai envie de tout essayer. C'est ce côté un peu, je suis très très curieux, quoi. J'ai juste envie de je fais une photo avec un téléphone, je peux faire une photo, après je vais peut-être la photocopier, tout essayer, quoi. C'est le côté amusant. Je veux dire, photographier toujours la même chose sur le même fond blanc, c'est juste ennuyeux, quoi. Je veux dire, c'est comme j'imagine que si vous deviez interviewer toujours la même personne, c'est juste pénible. L'intérêt, c'est que vous avez toujours des gens différents. La photo, c'est qu'il y a toujours des sujets différents. Puis après, la manière de le traiter. C'est vrai qu'on s'attend d'un photographe commercial à ce qu'on s'imagine. Voilà, ce photographe, on le connaît parce qu'il fait une photo en noir et blanc, sur un fond blanc, avec un reflet dans les cheveux. Il cadre toujours comme ça, donc on reconnaît l'image. Ouais. Alors moi, on a plus de la peine à me reconnaître parce que j'ai justement pas... Alors, parce que je suis peut-être incapable, tout simplement. J'ai pas de style. J'ai juste envie d'essayer de faire plein de choses différentes. Et puis j'espère que j'arrêterai jamais. Là, j'ai dû un peu me contrôler. Et puis justement, juste servir.
Pas essayer, quoi.
Non, parce que là, j'ai dû, sur les 100 photos, sur les 100 personnes, avoir une rigueur d'avoir le même cadrage, la même qualité d'image, la même lumière. Il fallait que ça soit toujours pareil, même si à chaque fois, je me disais, ah, mais ça, j'aurais dû faire comme ça la prochaine fois, je pourrais faire comme ça pour améliorer un truc. Et puis, je pouvais pas. Donc, j'ai dû rester sur la même ligne. Et puis, vraiment être un peu comme un photomaton. Les gens, ils étaient un peu comme dans une boîte. Il y avait un fond derrière eux. Il y avait une lumière devant eux. Puis moi, il y avait un appareil photo dans le milieu. Moi, j'étais juste là, derrière l'appareil, coincé entre la boîte à lumière, et j'appuyais quand je pensais que c'était intéressant. Dans ce travail, j'ai juste essayé de trouver les personnes, les convaincre de venir, parce que ça, c'est vrai que c'était pas toujours facile, surtout avec les femmes, qui leur expliquaient qu'elles pouvaient venir sans être maquillées, qu'on regarderait les photos, puis que si vraiment il y avait un problème, ça leur plaisait pas, bah, elles pouvaient toujours changer d'avis après, mais il fallait au moins essayer, donc. Et toutes les personnes, toutes ces femmes qui ont essayé, elles ont toutes accepté après de signer cette cession de droit pour pouvoir utiliser les photos, pour pouvoir les vendre, évidemment, quoi, au profit de Fondaction.
Dominique de Risbourg, je sais aussi que vous donnez des cours, des workshops pour tout le monde. Alors, d'un côté, les photographes disent « Ah, mais on peut plus bosser parce qu'aujourd'hui, tout le monde est photographe. » Et de l'autre côté, vous enseignez à ces personnes-là qui sont des amateurs à faire de meilleures photos.
Alors, j'enseigne pas. Alors, c'est vrai que c'est un truc qui m'a vraiment passionné.
Vous transmettez, si vous préférez.
Oui, parce que je pense que j'arrive
aussi...
C'est
un enseignement, d'une certaine manière.
J'arrive à un âge où on a peut-être aussi envie de
Quel âge ?
52.
Ouais.
On a envie d'apprendre aux gens des petits trucs. Alors, ces petits workshops, ils sont faits avec très, très peu de gens. Et l'idée, c'est de les adapter à chaque personne. De simplement leur montrer, de les laisser faire des photos, de leur laisser faire leurs défauts. Ouais. Et puis après, de leur dire, bah voilà, à mon avis, vous auriez dû faire comme ça, et vous auriez peut-être pas raté la photo. Et bon. Alors, ce qui est amusant, c'est que des fois, les gens, il n'y a rien à dire, parce que les photos, elles sont parfaites. Alors, donc, je vais avoir juste l'humilité de dire, bah, écoutez, je peux rien vous dire, c'est nickel. Donc, je suis presque jaloux que vous ayez fait cette photo, j'aurais voulu la faire.
Ouais. Dominique de Risbourg, merci d'avoir passé cette heure avec nous. Je rappelle votre projet Tous Égaux, livre disponible dans les librairies Payot, et cette exposition à la Ferrari Art Gallery à partir de vendredi à Vevey. Les photos seront en vente au profit de Fondation contre le cancer. Merci d'être venu nous voir.